Devine qui vient dîner. Michel Durand-Valade.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le sujet de ce soir n'est pas neuf. Il est même probablement vieux comme le monde et vieux comme les hommes. Ça dit, ils sont nombreux à chercher des réponses à ce mystère, entre guillemets, à ce doux poison qui s'empare de nos enfants aux alentours de, c'est variable, 12 ans, 13 ans, 14 ans, pour les transformer en petits monstres méconnaissables et foisonne les ouvrages qui promettent les solutions les plus radicales pour endiguer les débordements de l'adolescence. Beaucoup de ces livres sont à l'évidence des tentatives plus ou moins adroites de vendre en masse à des parents débordés des réponses toutes faites, mal faites. Mais je dois dire que dans la montagne de ces livres, quelques-uns sont intelligents, sourcés, argumentés et à l'évidence réfléchis et écrits par des professionnels qui semblent savoir de quoi ils parlent et qui ont en plus l'expérience des réponses qu'ils donnent, c'est-à-dire une expérience véritable de terrain, si j'ose dire, en parlant de l'adolescent boutonneux. C'est le cas du livre de ce soir, « Les ados, le mystère expliqué » paru chez Favre et que l'on doit à Pascal Roux. Bonsoir Pascal Roux.
Bonsoir.
Pascal Roux, vous êtes psychologue et coach. Spécialisé dans l'accompagnement des adolescents et évidemment de leurs parents. On reviendra évidemment sur ce parcours, mais pourquoi ce mot mystère dans le titre ? Alors je sais que les éditions Favre ont tendance à imposer des titres aux auteurs, alors qu'ils ne sont pas toujours responsables de la chose. Mais malgré tout, peut-être l'avez-vous vous-même voulu ?
Alors effectivement, celui-là, il vient de moi. Ah. En fait, le titre provisoire de cet ouvrage était « Les ados expliqués aux parents ». C'était le projet initial et puis j'ai tourné autour de ce titre que je trouvais intéressant bien sûr parce que je pense qu'il parle bien de l'ouvrage. Mais j'avais envie de donner une connotation un peu plus provocatrice aussi avec cette idée que j'ose expliquer le mystère des ados. Et en même temps...
Vous osez avoir raison.
J'ose avoir des pistes disons au moins. Et puis surtout cette idée aussi que je retrouve souvent chez les parents et chez les adultes qui sont en lien avec les adolescents et qui ne comprennent pas. Donc vraiment la notion du mystère pour moi, ils ne comprennent pas. Pas les ados.
Ils les regardent avec...
Ils les regardent avec, voilà, on voit les...
Des points d'interrogation au-dessus de la tête, dans le regard, en disant, mais c'est pas moi qui ai fabriqué ce grand sac de linge sale.
Mais c'est tout d'un coup, ils avaient l'impression de le connaître, et puis tout d'un coup, il devient différent, et c'est une sorte de... Voilà, cette sorte de mystère-là. Et en fait, ce titre, pour tout vous dire, il m'est arrivé quelque chose comme entre 5h et 6h du matin, dans un demi-sommeil, où je me disais, mais je cherchais le titre, et puis il est venu à ce moment-là.
Ce sont les meilleures heures de la création, vous savez. Celles qui précède l'endormissement et puis celle qui précède précisément le réveil.
Absolument.
Pascal Roux, on va avoir du mal à ne pas dire que vous êtes la fille de l'une de nos collègues, d'autant que vous la remerciez dans votre livre en tout début, Roselyne Fayard. Cela dit, je le dis parce que voilà, mais je ne voudrais pas que les auditeurs en déduisent que vous êtes là pour cette raison. Vous êtes là parce que votre livre est réellement bien fait, intelligent, et comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il est construit sur une réelle expérience de l'adolescence et de multiples rencontres avec des adolescents en crise et des parents désespérés. Puis Roselyne Fayard, de toute façon, fait aussi ce travail social, en tout cas à la radio déjà, puis en dehors aussi,
et puis,
qu'on sait moins.
C'est vrai que c'est ma mère et que je pense que je suis là où je suis aujourd'hui aussi grâce à elle, puisqu'elle a aussi donné cette impulsion et cette curiosité que j'ai aujourd'hui. Et je pense que ça vient en partie d'elle. Donc
oui, vous remerciez vos parents pour avoir ouvert la porte ou ouvert la voie.
Absolument, tout à fait. L'un comme l'autre, on effectivement tracé le chemin.
Vous n'êtes pas venue toute seule, Pascal.
Mais non.
Pascal Roux, vous allez nous présenter votre invité qu'on connaît déjà, en plus.
En plus, on le connaît. Bah oui, mais on continue dans les histoires de famille.
Bah oui.
Mais oui, moi, j'ai eu envie, c'est vrai que quand j'ai réfléchi à mon invité, justement, et j'ai eu envie d'inviter Olivier qui est mon frère, donc il s'appelle aussi Olivier Roux, voilà, comme moi. Et à plusieurs titres en fait. D'abord parce que c'est mon complice de toujours. Nous avons 2 ans d'écart et souvent on a eu tendance à dire qu'on était des jumeaux.
Qui est le plus jeune ?
C'est moi. Donc il est mon...
J'adore qu'on pose cette question. Ça fait 38 ans qu'on la pose, j'adore.
Bah, oui, non, mais pour savoir, comment peut-on deviner,
tout
franchement
fait.
Je le cache.
Donc c'est vrai que c'est mon grand frère.
Et... Bonsoir,
Michel. Bonsoir.
Et c'est vrai que ben on a cette complicité, on a eu, je vais dire la chance, parce qu'en fait en côtoyant les familles, je me rends compte qu'en fait c'est une vraie chance que de s'entendre avec dans sa fratrie.
C'est pas si fréquent.
Moi je pensais que c'était naturel et en fait avec l'expérience je me rends compte que non. Et donc cette relation qu'Olivier et moi entretenons depuis 38 ans bientôt, puisque j'aurai 38 ans bientôt, en fait c'est un vrai cadeau pour moi, c'est une vraie richesse. Donc il y a cette complicité d'être, j'allais dire, de deux êtres. Et puis on se rejoint aussi sur plein d'intérêts communs, puisqu'Olivier fait du coaching aussi, il est formé au coaching. Et puis on a cette évolution professionnelle qui va dans le même sens de l'accompagnement des autres. Et c'est une complicité supplémentaire qui vient se rajouter à la rencontre des deux êtres. Voilà, donc j'ai eu envie d'inviter Olivier parce que je pense que c'est une personne importante dans ma vie et que j'avais envie de partager ce moment avec lui.
Quel a été, sans vouloir violer aucune forme de discrétion et d'intimité, quelle a été votre dernière conversation avouable? En tout cas, elle a été professionnelle, par exemple,
hier soir au téléphone.
Hier soir autour du téléphone et ça tournait autour du professionnel en partie.
Oui, c'est vrai.
Ouais, ça revient souvent quand même.
On partage aussi bien, c'est vrai, sur nos vies privées que les choses. Je crois qu'on a une culture familiale qui est la culture de s'interroger sur soi-même et avancer, évoluer. Je crois que c'est un moteur très fort et une valeur très forte dans notre famille. Et je pense que quand nous évoluons, en tout cas pour ma part, je vais parler de moi. Quand je réalise que y a des choses, tout d'un coup j'ai des prises de conscience comme ça, j'ai souvent envie de le partager avec mes proches. Et c'est vrai qu'on parle du coup beaucoup de nos intimités, en tout cas moi je parle de la mienne, parce que j'ai en face un dit répondant et quelqu'un qui me suit depuis toujours.
Et en lequel vous avez totalement confiance.
Et la confiance,
je vous raconte deux anecdotes peut-être.
Allez-y,
sur ce
Olivier.
Sujet-là. D'abord le bouquin, comment il a commencé, c'est autour d'une pizza à Genève, dans un restaurant. Au secours, viens m'aider, j'ai besoin de faire le plan et tout. Mais je dis, mais je ne sais pas faire ça moi. Mais justement, on va le faire à deux. Voilà, ça c'est la genèse de...
Ça a commencé comme ça.
Ça a commencé comme ça.
Il a été extraordinaire.
La pizza était pas mal aussi, je me souviens. Et puis, la deuxième anecdote, je l'ai zappée. Voilà.
Elle reviendra tout à l'heure.
Sûrement.
Vous vous souvenez mutuellement de vos adolescences? C'est-à-dire,
oui.
Pascal, est-ce que vous vous souvenez de quel adolescent était Olivier, par exemple?
Ah oui, il a eu des phases un peu... il a eu des phases
diverses.
Non, diverses.
J'ai pas aimé cette période.
Il a eu sa phase où il y avait le sens interdit accroché sur la porte.
Oui. Ah oui, mais ça, ils l'ont tous eu.
À moi, pas.
Non, les garçons, je crois que c'est assez garçon, ça.
Oui, c'est très garçon.
Je crois qu'on ne rentre définitivement pas quand on est une maman dans la chambre d'un garçon.
Non, puis moi non plus.
Hein. Non,
plus,
on ne rentrait pas.
Non, j'avais pas.
Alors que les filles sont un peu plus accueillantes dans leur chambre, il me semble.
Donc, il a eu une phase comme ça, plutôt un peu ours dans sa caverne. Et puis, il a eu sa phase plus copain à l'extérieur. Il était beaucoup dehors. Donc c'était ces deux phases là mais je crois qu'on a eu l'un comme l'autre, tu me corriges si je dis une bêtise, mais on a eu l'un comme l'autre une crise d'adolescence relativement soft. Peut-être que c'est ma mère qui pourrait répondre mieux à cette question, mais je crois qu'on n'a pas été des enfants terribles. Donc on est resté très complices. Moi je me souviens de cette adolescence où on était trois puisque mes parents sont séparés. Et on a vécu une période intense,
de proximité,
d'échange,
de complicité.
Oui, tout à fait. Donc l'adolescence a été plutôt chouette, plutôt cocon, plutôt partage, plutôt...
Sachant que Roselyne, pour nous, n'était pas un personnage public, elle était maman. Donc, et c'est une mère...
Évidemment que
et c'est une cancer, donc elle est très maternelle. Pascal était une adolescente très rebelle. Très rapidement, elle a posé des choses.
Oh, j'ai fait une grimace, c'est vrai. Oui. Tu racontes, tu mens pas.
Il y a eu une période de forte rébellion à partir de 14-15 ans, comme
mais
ça.
Mais il était plus grand que vous, donc il s'en souvient.
Il s'en souvient mieux que
vous. Il avait 16-17 ans quand vous en aviez 14-15, ce qui change
mais
tout.
Moi, je me souviens de quelques oppositions sur des sujets phares, comme quelques petits copains et des choses comme ça. Et je m'excuse, mais c'est l'adolescence. Hein. Tu l'as oublié, moi je m'en souviens. Et c'est vrai aussi que cette période qu'elle a fort bien décrite, c'était une période pour moi bouquin, musique, chambre. Alors que c'est une période où elle a été très à l'extérieur. Et elle s'est projetée peut-être plus vite que moi. Donc elle a été cette adolescente-là. Je crois que la souplesse avec laquelle notre crise a été accueillie a permis que cette crise aille pas très loin. C'est quand on a vu qu'on pouvait poser des limites, nos propres limites, nous.
Qu'on pouvait négocier, qu'on pouvait discuter, que rien n'était fermé.
Et nos exigences étaient, je crois, pas très élevées, comme la plupart des ados que je côtoie.
Vous me feriez alors précisément, Olivier Roux, le portrait de la femme qu'est aujourd'hui Pascale Roux.
Alors là, pour le coup, je vais me fâcher définitivement avec elle, peut-être.
Elle peut sortir, si vous préférez.
J'écoute pas, vas-y.
Pascale est une femme... Bon, d'abord, moi, j'ai été fasciné par la performance technique de ce bouquin. C'est une matière que je connais. Je la connais très bien. J'en vis, donc je suis payé pour. Et elle a quelques encablures d'avance parce qu'elle a commencé avant moi dans ce métier-là de coach, je le rappelle. Et elle m'a ébloui par sa technique et par sa maîtrise. Ça décrit un personnage qui est quelqu'un de très exigeant avec elle-même, avec les autres, et qui pousse très loin dans ses recherches. Quelqu'un qui est très structuré aussi, alors que j'ai quelque chose de plus artiste qu'elle, finalement. Je crois que c'est ça qui la caractérise, une exigence et en même temps ce souci d'humanité. Je trouve en plus qu'avec le temps qui passe, elle devient une femme... comment est-ce que je pourrais décrire ça ? Il y a quelque chose de très charismatique dans cette façon très chaleureuse d'être tournée vers l'autre. Elle a, je pense, tellement entendu de choses et accueilli de confidences qu'elle a ce souci de l'âme humaine à un point que je trouve assez rare, finalement.
On se polie comme une pierre, comme un caillou au contact des,
mot pour mot,
des
c'est
difficultés
une,
des ouais. autres.
C'est une de mes devises. Je ne sais pas si c'est la sienne, fait. Mais je l'aurais volontiers utilisée comme image pour la décrire. C'est un fait.
En plus, vous n'avez pas dit qu'elle était belle. Pas sympa comme frère.
Non, mais c'est vrai que moi, c'est
vous
ce qu'on...
Vous ne voyez pas. Je crois que les frères ne voient pas ce genre de choses.
Je tairai un nom ce soir à l'antenne, mais encore récemment, quelqu'un m'a fait une confidence sur ce sujet en me disant « Ah, ta sœur !» Ben oui, mais c'est un petit peu comme Roselyne. Pour moi, ce n'est pas le personnage public, c'est maman. Pascal, c'est ma sœur.
Oui, donc vous ne pouvez pas voir qu'elle est belle.
Si. Non.
C'est pas mal. Enfin,
non, non, elle est bien. Bon, ceux qui veulent savoir, ils auront qu'à acheter le bouquin.
Oui, il y a sa photo derrière. Non, elle est ravissante. Bref, merci. En tout cas, je suis ravie de passer ces moments en vos compagnies. Et puis, on va parler évidemment de ce livre et de l'adolescence. Donc, on va parler de ce que beaucoup d'auditeurs qui ont à charge, la charge d'accompagner l'adolescence d'un, deux, trois enfants, allez savoir, toutes les questions qu'ils se posent et les quelques réponses, les quelques pistes en tout cas que vous donnez dans ce livre. Je propose d'écouter pour commencer... Oh, j'hésite un petit peu, parce que je me dis qu'on vient de parler d'enfance et que ce serait pas mal d'écouter Françoise Hardy dans cette très très belle chanson. Elle est bien vieille cette chanson, je sais pas, on est dans les années... On est au milieu des années 60, j'imagine, hein, 62, 63, quelque chose comme ça. Françoise Hardy chantait « La maison où j'ai grandi ». Elle en a fait une autre version, un petit peu arrangée, un peu plus bossa, avec, je sais pas, avec qui d'ailleurs, avec Charles Blackwell. Mais c'est assez joli.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant, n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie, et j'ai dû partir. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. J'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un le temps a passé et me revoilà cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais, d'elle et de mes amis, plus une trace, d'autres gens, d'autres maisons ont volé leur place.
Françoise Hardy, très très vieille chanson, on n'arrive pas à savoir, c'est sa voix quand elle était jeune fille à l'évidence, enfin jeune fille, je m'entends, quand elle était jeune, mais c'est pas nécessairement l'orchestration d'époque, enfin, donc c'est une espèce de drôle de mélange, mais c'est joli. La maison où j'ai grandi, il est Ragazzo della Via, c'était la chanson originale d'Adriano Celentano en fait.
C'est donc cela.
C'est donc cela, tout c'est clair. Pascal Roux, quel est le parcours qui vous a mené à vous spécialiser dans l'accompagnement des adolescents?
Je dis souvent c'est le hasard.
Menteuse.
Bah ouais, c'est fou. En fait, mon parcours, il a été. J'ai commencé par faire des études de psycho.
Oui.
Donc voilà.
Classique.
Ce qui était étonnant, c'est que chaque année, donc j'ai fait ce qu'on appelle un DES, donc c'est 6 ans en fait d'université. Et chaque année, la première année, je voulais faire une chose, la deuxième, je voulais faire autre chose. Et puis chaque année a évolué vers une nouvelle carrière. Et je me disais, à chaque fois que je découvrais quelque chose de nouveau en psycho, je disais, ah, mais c'est ça que je veux faire. Ouais. Et puis, au bout du compte, je suis arrivée au bout de l'année, avec mon diplôme. Ouais. Et puis, je suis arrivée, j'avais mon diplôme en poche, et puis j'avais rien, parce que j'avais pas de projet. Et puis, il y a beaucoup de psychologues sur le marché, et puis peu d'expérience à l'université, beaucoup de connaissances, mais pas d'expérience. Et donc, je me suis retrouvée comme beaucoup de psys, c'est-à-dire sur le carreau.
Ouais.
Donc, je suis allée travailler pour me nourrir. Et puis, je me suis formée en PNL, donc programmation neurolinguistique.
On y reviendra pour expliquer ce que c'est.
Donc, ce sont des outils d'accompagnement. Et puis là, à partir de là, j'ai commencé à dire, je commence à comprendre ce que je vais pouvoir commencer à faire de ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Et ensuite, je suis allée me former en coaching. Donc là, c'était une formation de coaching pour adultes, puisqu'il n'y a pas de spécialisation pour coaching ado. Qui est une formation qui a duré une année. Et puis suite à ça, j'ai été engagée, et c'est là que le hasard s'installe, j'ai été engagée dans un service de psychologie scolaire. Nous étions 2 psychologues, donc service de psychologie scolaire prend en charge les enfants de 6 à 16 ans. Et donc la scolarité obligatoire, et puis moi les 6, 10 ans, 11 ans, je ne sais pas trop quoi faire. Je
suis pas vous êtes embarrassée avec les enfants?
Ouais. C'est-à-dire qu'avec des enfants, j'ai de la peine à me rouler par terre sur la moquette pour essayer de faire des jeux de rôle. Ça, je ne sais pas très bien faire.
Vous êtes sûre que c'est ce qu'il faut faire avec les enfants?
J'ai souvent eu l'impression, mais en tout cas...
Non, ne faites pas avec les enfants, c'est bien.
Continuez avec... Ça, je ne sais pas très bien faire. Et du coup, ma collègue était plus à l'aise avec les jeunes enfants, donc du coup, on s'est répartis. Ouais.
Naturellement.
Et puis, j'ai commencé à accompagner donc, les plus âgés de cette population. Et les enseignants m'envoyaient des jeunes qui étaient en difficulté avec l'école. Donc souvent, des problèmes d'investissement, des jeunes qui étaient démotivés.
De présence, d'absentéisme, des choses comme ça.
De l'absentéisme ou des problèmes de comportement en classe, ou alors les devoirs pas faits, ce type-là. Et puis, j'ai commencé à adapter les outils d'accompagnement, de coaching à ces jeunes. Et puis, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Donc, j'ai commencé à faire mes armes comme ça. Mmh. Et puis, j'ai travaillé une année dans le service de psychologie scolaire. Et derrière, j'ai été engagée par une association qui s'occupe de l'insertion professionnelle des adolescents. Là, c'était des 15-25 ans. Donc, un CEMO, un semestre de motivation. Et là, j'y ai travaillé 5 ans.
Dans laquelle aujourd'hui, Olivier Roux travaille.
Oui, là, elle a clairement tracé la voie pour la question de l'antériorité. Moi, je suis l'aîné, mais c'est elle qui a tracé, là, clairement.
Qui a tracé vraiment la voie.
J'ai suivi.
L'adolescence, Pascal Roux, en toute sincérité, mais c'est pas une affaire de sincérité en l'occurrence. L'adolescence, c'est quoi? C'est un concept occidental créé par nos sociétés. C'est c'est une vraie réalité. Qu'est-ce que c'est au juste? On sent bien qu'il y a une modification physiologique, etc. C'est une évidence, mais par là-dessus se grève bien d'autres choses.
En fait, l'adolescence, c'est une transition. C'est-à-dire que c'est un espace-temps, j'allais dire, qui fait que l'individu va passer de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est ce moment de transition qui se fait pas en un coup, heureusement.
Sinon, on serait curieux, on s'endort un matin, on se réveille le lendemain matin avec des seins, avec voilà, des poils partout.
Heureusement que le corps et la biologie fait que les choses évoluent progressivement. Mais on voit dans certaines sociétés, et c'était le cas auparavant, où il y avait ces moments de rite initiatique où avant c'était des enfants, après ce sont des adultes, où là il n'y avait pas de passage. Mais il y avait en tout cas le rite initiatique qui permettait de dire, ben voilà, t'es passé d'un stade à un autre. Donc dans notre société, il n'y a plus de rite initiatique, ça n'existe pas, ou peu, très peu. Donc on peut imaginer que parce qu'il n'y a plus de rite initiatique, l'adolescence traîne.
Est-ce que ça veut dire que chez les Papous de Nouvelle-Guinée, chez, je ne sais pas, dans des tribus de forêt amazonienne ou en Afrique, est-ce que ça veut dire que dans ces sociétés peut-être plus archaïques, ayant conservé le sens du rite et par exemple ces rites initiatiques, l'adolescence évidemment reste un état physiologique, mais n'éclot pas en crise?
Je pense que les sociétés archaïques, comme vous dites, sont des sociétés qui sont plus simples. C'est-à-dire que notre société occidentale, alors moi je ne suis pas sociologue, donc je ne voudrais pas rentrer sur un terrain que je ne connais pas, mais notre société est très complexe.
Ne crée pas de schéma de frustration, de désir, de...
La société archaïque.
Oui.
Oui. Bah, c'est-à-dire, je pense, ça se joue, il se passe d'autres choses au niveau. D'abord, il y a une communauté. Souvent, ils vivent dans des familles avec un chef. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement structuré, ce qui est beaucoup moins le cas dans nos sociétés. Donc, je pense qu'on a perdu des repères parce que notre société se complexifie. Donc, l'adolescent, il met plus de temps aujourd'hui à trouver sa voie adulte. Souvent, la définition de l'adolescence, c'est cette idée. Donc, le début de l'adolescence, c'est la capacité à procréer. Donc, à partir du moment où un enfant est capable, enfin, un enfant
est pubère.
Est pubère, voilà. La possibilité de procréer, il rentre dans l'adolescence. Par contre, la sortie de l'adolescence, c'est-à-dire le début de l'âge adulte, se définit par la capacité à avoir des comportements d'irresponsables. Donc, autant dire que là, ça laisse la porte ouverte à une adolescence qui dure jusqu'à...
Qui peut être très tardive.
Très, très tardive.
Dont on dit qu'elle se prolonge d'ailleurs beaucoup par rapport aux, je sais pas, 10, 15 ans, 20 ans,
tout
ou 100 ans en arrière.
Mais parce que nous fonctionnons aujourd'hui non plus tellement dans la notion de responsabilisation des uns et des autres, mais plus dans ce qui est aujourd'hui important. Moi, j'entends ça souvent chez les parents. Ils attendent que leur enfant trouve leur voie pour être heureux. Donc on est moins dans l'efficacité, dans l'efficience. C'est-à-dire qu'avant, on disait à un gamin, tu fais ta formation pour pouvoir gagner ta vie à 20 ans, point barre. On était dans des histoires d'atteinte du résultat, de la performance.
Dans des chronologies relativement précises aussi, et tenues.
Absolument. Oui. Donc, mais on est vraiment dans un des objectifs de performance, c'est-à-dire à tel âge tu dois être là, etc. Mmh. Aujourd'hui, on est moins là-dedans, on attend plus que la personne trouve sa voie pour être heureux. Donc du coup, ça laisse plus de temps, il y a moins d'exigences au niveau des performances, et ça fait durer cette phase de transition entre le moment où on passe de l'enfance à l'âge adulte où on s'assume.
Olivier Roux, vous êtes d'ailleurs dans ces problématiques-là, vous êtes face à des jeunes, peut-être en fin d'adolescence, essayant de s'en sortir et dans l'obligation de trouver,
18-25,
de trouver à subsister, à travailler, à gagner leur propre argent.
Ils ont 18-25 ans, mais j'accompagne une population au sein de cette association que j'ai rejoint moi il y a 3 ans. J'accompagne des jeunes qui ont un profil particulier et des besoins qui sont donc spécifiques. Ils sont bénéficiaires de l'aide sociale. Et à la fois, ça offre un cocon qui les entoure et qui les motive, qui les accompagne vers la réussite. Et en même temps, ça les stigmatise. Et une grosse partie de mon travail consiste à déstigmatiser ces jeunes pour vraiment... être parfois le premier qui, dans leur parcours, leur pose la question « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?» Et je rebondis sur ce que disait Pascal à l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que les parents aujourd'hui trouvent que c'est important pour l'enfant, pour le jeune, de trouver sa propre voie, pour trouver son propre épanouissement. Mais des parents qui eux-mêmes n'ont pas forcément les clés, n'ont pas forcément réussi eux-mêmes ce parcours-là. Et il y a quelque chose d'un peu paniquant pour le jeune de devoir trouver une voie qui n'est pas balisée du tout. Au moins, si elle était balisée, il pourrait se définir même en contre. Et il n'a pas cette chance-là souvent, parce qu'on est nous-mêmes assez peu repérants pour les enfants qu'on accompagne, pour les jeunes ados.
Parce qu'il n'y a pas de doute, et je reprends cette idée du contre, il n'y a pas de doute, un adolescent et tout individu d'ailleurs se construit soit en suivant le modèle, soit en s'y opposant. Oui. Il n'y a pas de juste milieu possible. Ça n'existe pas le truc qui serait juste autre chose. Je ne sais pas ce que ça pourrait être autre chose d'ailleurs, mais
Ce sera forcément pour ou contre quelque chose.
Voilà, c'est drôle ça. Après... C'est binaire. C'est un machin, c'est ou pour ou contre.
Alors, c'est pas binaire dans le sens où il peut prendre un bout pour les parents, c'est-à-dire modéliser une partie de ce qu'il
se marier très tôt, mais refuser d'être médecin, comme
par
comme
exemple.
Papa.
Voilà. Donc, il peut prendre un bout du modèle qu'il a sous les yeux et puis refuser une autre partie. Et puis, il va aller chercher un autre modèle à l'extérieur. Ouais. Donc, au fond, nous fonctionnons tous comme ça. C'est-à-dire qu'on va observer ce qu'il y a autour de nous. Après, que ce soit au sein de la famille ou que ce soit à l'extérieur, que ce soit l'école, les copains ou les parents des copains ou un sportif ou un musicien, et donc aller chercher le modèle qui donne envie de faire comme. Ouais. Et c'est donc après l'adolescent va prendre des bouts, ça va faire une sorte de mosaïque comme ça et qui lui permet de se construire. Mais c'est toujours par rapport à quelque chose.
Ouais. Et c'est d'ailleurs pour moi l'une des définitions de l'adolescence, c'est bien celle-là, c'est-à-dire que c'est le moment où je revendique de pouvoir choisir mes valeurs, même si c'est pour reprendre les tiennes. Mais je veux avoir le droit de pouvoir les revisiter et pouvoir décider en première personne si c'est bien celle que je vais, moi, auquel je vais adhérer pour mon existence.
Alors, on parle toujours beaucoup de l'adolescent et de sa crise et de son attitude et de ses rébellions et de ses colères et de ses cheveux gras et de tout ce qu'on voudra. Bon, bref, alors, bien sûr que l'enfant, l'adolescent est une part importante du problème. Ça va de soi. Mais les parents aussi, c'est-à-dire au-delà du conflit d'autorité, enfin de tout ce qu'on peut dire, des discussions houleuses sur des histoires de je ne sais pas quoi, des divergences de point de vue sur des envies de sortir, de pas sortir, de rester. Est-ce que aujourd'hui les parents supportent intimement, presque consciemment, enfin, je me demande si parfois c'est conscient, de voir leur petit bébé devenir un adulte. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de difficile à accepter aujourd'hui et une véritable envie de retenir l'enfance?
Alors ça peut être une problématique qu'on retrouve, pas chez tous les parents, mais c'est vrai que ça arrive parfois que les parents n'aient pas envie que l'ado prenne son autonomie. Ouais. Bah parce que ça veut dire que si l'ado grandit, ça veut dire que vieillisse. Mmh. Donc c'est accepter que le temps passe pour eux. C'est accepter aussi que l'adolescent fasse son propre chemin, alors que pendant 10, 12 ans, ils ont été le repère et ceux qui ont cadré et qui ont accompagné. Mmh. Puis tout d'un coup, ce jeune...
Un rôle et un statut formidable.
Ouais, absolument. C'est perdre ce rôle du soignant, j'allais dire, hein, puisque dans la petite enfance, le parent a un rôle de soin et de survie, puisque l'enfant sans le parent ne peut pas survivre. Ce qui n'est plus le cas de l'adolescent. L'adolescent, il peut survivre sans ses parents. Et ça commence à être difficile. Ça veut dire que le parent a besoin de développer une nouvelle manière de rentrer en relation avec son adolescent. Ça n'est plus son enfant, c'est un jeune, un adulte en devenir. Oui. Et là, ça nécessite aux parents d'accepter, de rentrer dans de la flexibilité. C'est-à-dire, d'autant que l'adolescent en plus, il est un peu, il n'est pas adolescent du jour au lendemain, on l'a dit. Hein. Donc il a des moments où il est dans l'enfance, où il se retrouve...
Dans le bébé même.
Dans le bébé, où on parlait des peluches tout à l'heure, hors antenne.
Des câlins, des peluches, voilà. Enfin,
c'est donc chaud. Ça, c'est des retours vers l'enfance. Et puis tout d'un coup, il a fait une poussée vers l'adolescence, donc vers l'autonomie. Donc il va rejeter le parent. Et ça peut se faire d'une heure sur l'autre.
Ouais. Ça déstabilise forcément un peu.
C'est très déstabilisant pour le parent. Donc c'est cette flexibilité que les parents ont besoin de développer et qui n'est pas toujours évidente parce qu'elle est insécurisante.
Vous l'avez dit, Pascal Roux, vous travaillez avec deux outils principaux, le coaching et la programmation neurolinguistique, la PNL. On va évidemment en parler, savoir un peu comment tout cela fonctionne. Je vous propose d'écouter avant une artiste suisse, Isa Rose, Again. Elle chante en Suisse, comme vous pouvez le voir. Une espèce de langue locale, Geneva, vous savez. Geneva, et là c'est Again and Again. C'est du Suisse.
Maybe the sun will never come down. Or maybe the book we started writing will burn. I'll keep the sweetest memories of you. The others, I send them back to you. You can say whatever you wanna say.
On échangeait des expériences de parents face à des.
Mais j'ai pas reconnu l'accent. Hein. C'est quel canton ou...
Je sais pas, Eugen and Eugen, je sais pas d'où ça vient. Le canton Eugen. Non, mais c'est très joli, c'est-à-dire elle chante joli. En anglais, elle a raison, qu'est-ce que vous voulez
très
faire? Qu'elle chante en suisse-allemand
C'est moins vendeur.
Mais il n'y en a qu'un qui peut le faire, et c'est déjà fait. Donc, qu'elle chante en italien, ce serait ridicule, ça existe déjà.
Aussi.
Chante en français, tout le monde s'en fiche.
Tout est fait.
Donc elle chante en anglais, comme ça. Et c'est bien, elle chante bien, c'est Isa Rose. Donc, je l'ai dit, Pascal Roux, vous utilisez, enfin vous l'avez dit, surtout deux outils, le coaching et la programmation neurolinguistique. Le coaching, je crois qu'on connaît à peu près, mais je crois aussi qu'on se fait de fausses idées sur ce que c'est. Qu'est-ce que c'est précisément le coaching?
Alors, ce que ça n'est
dans ce
pas,
cadre-là, en tout
on
cas.
Va commencer par dire ce que ça n'est pas. C'est-à-dire que le coaching, ce n'est pas du conseil. C'est-à-dire que les adolescents qui viennent me voir, je ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire. C'est d'ailleurs la première étape qui est souvent étonnante, c'est qu'il faut recadrer ça. Parce que souvent, ils se posent en face de moi sur la chaise et puis ils disent « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et puis, le coaching, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas aux adolescents « J'en sais rien, je suis qui, moi, pour dire à un adolescent, c'est ça qu'il faut que vous fassiez dans votre vie ?»
Puis ils ont déjà leurs parents qui leur donnent leur filent des tas de conseils.
Donc,
pas mauvais, qui sont en tout cas pas les bons.
Mais c'est souvent d'ailleurs ce qui fait qu'à un moment donné, ils commencent à s'ouvrir en consultation avec moi, c'est que tout d'un coup, ils réalisent que moi, je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire, parce que j'en sais rien. Donc moi, je leur dis souvent ça, c'est-à-dire je ne sais pas ce que vous devez faire. Par contre, ce que je sais, c'est les bonnes questions qui vont vous permettre de trouver la voie. Et ça, en fait, c'est ça mon métier. C'est-à-dire, c'est de poser des bonnes questions qui vont permettre à ces jeunes de dire, mais au fond, qui suis-je et qu'est-ce que je veux dans ma vie?
C'est quoi les bonnes questions? C'est quoi une bonne question face à un adolescent, par exemple?
Ah, alors, une bonne question, c'est d'abord, que voulez-vous? Ça peut paraître... Mais que voulez-vous? Si je m'arrête à la première réponse qui est « je sais pas », on est mal. Ouais. Donc après, c'est « mais que voulez-vous? Qu'est-ce que vous avez déjà imaginé? Comment est-ce que vous avez déjà exploré un certain nombre de choses ?» Après, ça dépend de quoi on
parle.
Est-ce que vous avez réfléchi? Souvent, moi, je leur dis, mais écoutez, j'imagine que vous avez déjà beaucoup pensé, vous ne m'avez pas attendu. Donc, qu'est-ce que vous avez imaginé jusqu'à maintenant? Et au fond, c'est toutes les questions...
Ça renvoie là souvent à des abîmes de non-réflexion, précisément. Réaction?
Rarement.
Rarement,
mais oui,
c'est on leur laisse pas
un adolescent réfléchit.
Un adolescent réfléchit, c'est un scoop, monsieur.
Incroyable.
Alors parfois, ils réfléchissent en circuit fermé, c'est-à-dire qu'ils s'enfoncent dans des réflexions qui, à un moment donné, finissent par plus avoir de sens. Donc là, c'est important effectivement d'orienter des questions qui va leur permettre à un moment donné de trouver des réponses, parce que ça, c'est vraiment l'intérêt. Donc le coaching, c'est ça, c'est de trouver
des bonnes questions
qui vont permettre à ces ados de découvrir
et
qui
d'écouter
sont.
Les réponses.
Et d'écouter les réponses, bien sûr.
Non, mais c'est...
Alors ça, c'est... Oui, ça fait partie,
ça,
bien
c'est
sûr.
Bête, mais
non,
des
non,
fois,
mais
on n'écoute pas les réponses.
Mais vous avez raison. C'est même écouter les réponses et écouter ce qu'il y a derrière les réponses. Parce que derrière les réponses, il y a des mines d'or. Donc ça, mon travail, c'est ça. C'est de poser des questions et d'écouter les réponses.
Et puis alors, l'autre outil, un peu plus mystérieux, est nimbé d'une aura parfois un peu trouble.
Mais
ça dépend à qui on s'adresse. Mais enfin, ça va de la secte. Enfin, on a à peu près toutes les interprétations possibles. Oui. Vous allez clarifier d'ailleurs cette aura si trouble. C'est la programmation neurolinguistique, la PNL, comme on l'appelle, dont vous êtes un maître.
Oui,
tout comme vous d'ailleurs, Olivier.
On dit un maître praticien,
maître
ou un master aujourd'hui, c'est plus connu.
Oui,
donc c'est des masters.
À Geneva,
c'est comme again and again.
À Geneva, on dit master.
À Geneva, vous dites master. Oui. Comme Roselyne d'ailleurs.
Comme Roselyne, tout à fait.
Voilà, qu'est-ce que c'est alors? Toi, c'est passé de mère en fille en fils.
Absolument, mais c'est vrai que Roselyne nous a donné envie en fait de nous former. Programmation neurolinguistique, en fait, ça existe depuis les années 70. C'est ils étaient tous les deux psychologues, un linguiste, un mathématicien, et qui sont intéressés en fait au processus d'excellence, c'est-à-dire ils sont allés regarder comment les gens faisaient pour réussir.
Réussir quoi?
Alors là, en l'occurrence, c'était plutôt de l'accompagnement, donc dans la communication. Ils sont allés voir des grands thérapeutes et puis ils sont allés observer comment ces gens qui réussissaient s'y prenaient pour réussir.
Qui réussissait quoi? Je répète
alors,
ma question.
Alors, par exemple, un entretien, je pense à un de ceux qui sont allés
qui réussissait
observer.
Professionnellement, qui réussissait à convaincre, qui réussissait à vendre
leur raconteur. Dans leur accompagnement thérapeutique.
D'accord. Donc, c'était. Ah oui,
qui
c'était
guérissait leurs patients.
Guérissait leurs patients.
Très bien.
Pourquoi ça marchait? Qu'est-ce qui marchait? Quand ça marchait?
Donc, ils sont allés observer, notamment Milton Erickson, qui est une des personnes de l'accompagnement. qui a fait de l'auto, ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Et donc, ils sont rendus compte que ben, ces personnes, qui étaient donc de grands thérapeutes, avaient des processus qui permettaient, qui permettaient à leurs patients de se sentir bien, d'avoir des résultats. Donc, ils en ont tiré donc c'est pour ça qu'on parle de processus, c'est-à-dire des modèles d'accompagnement. Bah, qui permet de bien communiquer, qui permet à une personne d'être en contact avec ses ressources, d'être capable d'avoir une vision positive, d'être plutôt acteur de sa vie plutôt que réactif. La PNL, c'est un ensemble, c'est difficile à résumer parce que c'est presque 40 jours de formation. Donc il y a des outils de communication, il y a des outils qui permettent de faire un vrai accompagnement thérapeutique, donc qui permettent de changer des souffrances ou des comportements qui sont problématiques chez les personnes. Donc il y a différents niveaux d'accompagnement grâce à la PNL. Ce qu'on connaît le mieux, parce que c'est ce qui est le plus utilisé, c'est la communication. C'est-à-dire l'histoire de « on regarde souvent les yeux » parce que ça permet de comprendre à quoi pense la personne.
Il faut que je fasse attention.
Moi, je vous rassure, moi, je n'utilise pas ça parce que je trouve que ce n'est pas la partie la plus intéressante. Ouais, ouais. Moi, c'est vrai que j'utilise plutôt les outils qui me permettent de donner à l'autre des ressources. Voilà, ça, c'est comme ça que moi, j'utilise la PNL. Ce sont des outils qui sont extraordinaires et qui sont de loin pas de la manipulation comme on peut l'entendre.
Alors, on l'entend très souvent, de manipulation, sur le faible.
La publicité est une forme de manipulation aussi, la politique aussi. Il y en a d'autres qui sont faites avec plus ou moins de bienveillance. Il y a des politiciens véreux aussi. Donc, bon, voilà. Il y a certainement des PNListes qui sont très mauvais, certainement.
Ça veut dire que c'est possible avec la PNL
Ce sont des outils de communication. Donc, à partir du moment où vous avez une connaissance sur comment ça fonctionne, ben vous pouvez utiliser ça. C'est au service de quoi vous l'utilisez ?
Au service d'une intention. Si elle est bonne, vous irez au bon résultat. Et si elle est mauvaise, vous ferez du mal aux gens. Et d'autant plus que vous êtes bien équipé.
Et doué. Venons-en à ce livre et à ces adolescents...
Mystérieux.
Très mystérieux.
Elle a calé là.
Évidemment parce que...
Elle devait penser aussi, je pense.
non, je pensais à ce livre. J'étais en train d'essayer de me remémorer la manière dont vous l'aviez construit. Il y a 4 chapitres. Alors je sais que le premier, cette approche de l'adolescence comme phénomène. Oui. Ensuite, dans ce livre, le deuxième est absolument passionnant parce qu'il s'attache au lien et à la relation qu'il est fondamental de garder quand on est en contact avec des adolescents, et que ce soit des parents, des professeurs aussi. Évidemment, les parents étant au premier rang, comme ça, au front. Donc, ce lien qu'il est fondamental de garder avec son adolescent, et on sait à quel point ce n'est pas toujours facile.
Oui, c'est vrai que c'est une des choses que je rencontre quasi systématiquement dans les demandes de parents. On se parle plus, on se comprend plus. Quand on se parle, ça part en vrille. Donc c'est au fond la première étape, c'est ce qu'on abordait tout à l'heure, c'est cette idée que le jeune, lui, il évolue, et puis le parent, il a besoin d'évoluer avec lui, et la communication a besoin d'évoluer avec ce changement-là. Et donc il est important de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui va faire qu'un lien est de qualité, ou qu'est-ce qui fait au contraire qu'il n'est pas de qualité ?
Qu'il se dégrade. Oui.
Mais c'est vrai qu'au fond, ce qui est décrit dans ce livre, c'est vrai que c'est par rapport au lien, ce que j'ai voulu décrire, ce sont des choses qui touchent bien sûr les ados et leurs parents, mais ça touche tout être humain. C'est-à-dire qu'être capable d'écouter, on parlait de l'écoute, être capable de valoriser quelqu'un, c'est-à-dire dire à l'autre « mais c'est génial ce que tu fais », que vous soyez un parent, un ado, un professionnel, un collègue, ou même avec la caissière à la Migros, mais c'est pareil, on a besoin de ça. Et au fond, il y a des choses qui sont, j'allais dire, universelles, et qui ont besoin, on a besoin d'être pris en compte, on a besoin d'être considéré, on a besoin d'être écouté. Et tout ça, ça fait partie des choses qui créent le lien. Donc, plus vous allez le soigner en tant que parent avec votre adolescent, plus vous avez une chance pour que, après, le contenu passe. Parce que y a la communication, c'est la forme, mais après, il y a pour que le contenu puisse passer. Donc, le lien est nécessaire pour qu'on puisse se comprendre. Donc, soignons le lien pour arriver à nous comprendre.
C'est-à-dire, mais souvent, et vous ne le faites pas d'ailleurs spécifiquement, mais on sait à quel point on se le fait soi-même d'ailleurs. On se met souvent dans la nécessité de devoir faire attention à tout ce qu'on dit quand on est dans une relation un peu difficile avec un adolescent, à faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on est. Et il y a des moments où on est en colère, et on est en colère. Oui. Et point final. Et alors, on aimerait rentrer cette colère, on aimerait positiver, trouver la... Et on n'y arrive pas, simplement parce qu'on n'y arrive pas. Et ça sort, parce que ça doit sortir. C'est pas bon, ça. Il faut pas que ça sorte.
Je crois
souvent on a les parents comme ça.
Mais je crois que c'est la partie. Je décris ça d'ailleurs, hein, une partie sur les émotions. Les émotions, au fond, on a l'habitude de les projeter. C'est-à-dire que quand on ressent quelque chose, on va avoir envie de que ça sorte effectivement, parce qu'on a besoin que ça sorte. Hein. C'est une énergie. Une émotion, c'est une énergie. Donc il n'y a pas de place dedans. Il faut que ça sorte. Non, c'est comme de l'électricité. Donc donc ça a besoin de sortir. Après, c'est sous quelle forme ça va sortir. Et c'est là qu'on peut s'interroger. C'est-à-dire qu'être conscient que quand je suis en colère, en fait, ce n'est pas l'autre qui me met en colère, c'est je suis en colère. Tant qu'on est dans... C'est la faute de mon adolescent.
C'est pas l'autre. Il faut voir.
Non, c'est la vôtre de colère. Elle vous appartient.
Oui. Enfin, elle est quand même provoquée.
Elle est provoquée.
Par des éléments extérieurs.
Oui. Si vous êtes
qui mesure 1m75, qui ont des boutons sur le front, ouais. Et qui répondent des imbécilités exprès.
Exprès. Alors, oui. Êtes-vous sûr que c'est exprès?
Non, mais justement, que cherche-t-on?
C'est l'interprétation, ouais. En fait, de ce que l'on fait de la situation, ouais. Qui va générer de la colère.
Parce qu'il y a un autre chapitre, évidemment, lui aussi passionnant. Il concerne tous les parents d'adolescents, même si l'adolescence se passe plutôt bien. Il y a toujours des moments de conflit, il y a toujours des moments difficiles parce qu'il y a une exigence d'un côté, un refus de l'autre. Enfin, bon, bref. Que cherche l'adolescent dans le conflit? Parce que forcément, il cherche quelque chose.
Il cherche plein de choses. Je crois que la plupart du temps, il cherche à se faire plaisir, c'est-à-dire il cherche à obtenir un certain nombre de choses, c'est-à-dire pouvoir sortir, pouvoir voir ses copains, ne pas être obligé de travailler.
Ah, il cherche
etc.
à gagner, donc, dans le conflit. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ouais.
Donc, il cherche à gagner. Donc, c'est la première étape, c'est lui, il a la vision de moi, je veux me faire plaisir, je veux obtenir quelque chose de positif pour moi, quitte à ce que ça clash avec
les parents. Je ne lâcherai pas.
Donc, ça, c'est souvent le premier moteur. Ensuite, derrière, il y a tous les jeux relationnels autour des parents. C'est-à-dire, c'est les jeux de pouvoir. C'est, hein, puisque l'adolescent, il rentre dans une phase où il cherche l'autonomie. Donc, qui dit autonomie, dit il va falloir à un moment donné se confronter à cet adulte qui est mon parent, que ce soit papa ou maman. Mm-hmm. Donc, il y a cette recherche de est-ce que je vais être plus fort, hein, on est un peu dans des confrontations liées à est-ce que je vais être plus fort que mon parent. Mm-hmm. Ça peut être ce qu'on appelle des rapports de force. Par rapport aux limites, il y a aussi cette idée qu'ils vont venir tester la limite. Souvent, on me dit, mais pourquoi il vient me casser les pieds autour de ça? Pour illustrer ça, je donne souvent l'exemple de quand il y a un enfant, je sais pas moi, vous avez un enfant de 3 ans qui approche la main d'un poêle dans lequel il y a du feu. En général, les parents réagissent très fortement.
C'est instinctif.
C'est instinctif. Donc là, le non... Il représente la limite, qui est une limite forte. Hein. L'adolescent, il va venir vérifier si le non est une limite forte ou molle. Si c'est fort, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose d'important. Si c'est mou, c'est qu'il peut aller au-delà. Donc, vous voyez, c'est l'intensité de la règle qu'il va venir tester. Est-ce que c'est vraiment important ou pas? Donc, plus vous allez...
Mais des fois, c'est pas vraiment important.
Mais c'est ça qu'il teste. Ils viennent juste vérifier.
Mais des fois, c'est pas vraiment important. Enfin, on est encore là, on est aussi dans des conflits de valeurs. Des parents doivent accepter à un moment que les valeurs de leur enfant ne soient pas les mêmes que les leurs.
Alors souvent, on
ce qui
n'est
pas simple à admettre.
Souvent, on retrouve les mêmes valeurs. C'est ça qui est fou. Mais on retrouve les mêmes valeurs, mais elles ne sont pas vécues de la même manière. Vous demandez à un rappeur ce que veut dire pour lui le respect. Et demander à une personne...
Danseuse classique.
Danseuse classique, voilà. Ou non, je pense à une personne âgée.
Oui, à quelqu'un d'autre.
Voilà,
oui.
Quelqu'un d'autre. Donc demander à ces deux personnes qu'est-ce que le respect pour l'un et pour l'autre. Au fond, ce sont des valeurs très fortes, mais ils ne vont pas l'exprimer de la même manière.
Mais ils en ont le même sens.
Ils en ont le même sens, mais pas la manière, pas la manière de le vivre. Et souvent, je suis très frappée par ça, parce que les adolescents prennent les valeurs de leurs parents. Mais ils ne vont pas les vivre de la même manière. Mm-hmm. Donc le respect va être important pour eux, mais être en conflit avec eux, ce n'est pas un manque de respect. Vous voyez, c'est sur la manière dont elles vont s'appliquer dans la vie que parfois il y a un désaccord.
Le dernier chapitre est évidemment le plus attrayant parce qu'il offre tout un panel de comportements d'adolescents. 9 comportements pour lesquels vous offrez des pistes de réponses. Ces comportements sont vraiment très récurrents. Attendez, il faut que je les prenne là sous les yeux parce que c'est vraiment les comportements tout à fait... on y reconnaît beaucoup de choses. Mon adolescent est violent, agressif, il me parle mal, il n'obéit plus, il me ment. Mon ado veut sortir tout le temps, faire la fête, etc. Mon ado ne se lave plus, mange mal, se couche tard, vit la nuit. Mon ado ne sait pas que faire de sa vie. Mon ado manque de confiance en lui. Mon ado est mal dans sa peau. Enfin, etc. Avec des comportements associés à des mal-être, à des difficultés, avec des attitudes qu'on reconnaît. Évidemment.
Certains très destructeurs.
Et certains très difficiles, très destructeurs, oui. Donc ça, alors voilà, vous avez établi comme ça 9 comportements et puis vous avez très bien fait parce que alors il y a le comportement, voilà. Alors dans ce comportement, voilà ce qui se passe. Et l'autre chapitre, c'est comment y faire face. Mmh. Et c'est passionnant à lire parce que souvent, en même temps, vous enfoncez des portes ouvertes. Mais c'est vrai. Mais en même temps, on n'avait même pas vu qu'il y avait une porte là, dites donc. Et qu'elle était ouverte. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, je lis un truc, mais c'est... Évidemment. Mais c'est incroyable de se dire, mais enfin, évidemment. Comment n'avais-je pas pensé à cette solution-là ?
Rappelez-vous que le coach, il est là pour poser les bonnes questions.
Oui, les bonnes questions. Ouais.
Mais c'est vrai que je suis partie de comportements. En fait, les comportements que je décris sont souvent des demandes qui me sont faites par les parents. Donc j'ai pris les demandes les plus récurrentes qui se recoupent les unes les autres. Pour moi, mon métier de coach, il est bien sûr de poser des bonnes questions, mais avant tout, et là c'est peut-être plus la psy qui cause, c'est plus on est conscient de ce qui se passe, plus on peut y faire face. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de décrire derrière les enjeux, si on s'arrête à mon adolescent est violent, ben, le gamin il est stigmatisé, comme disait Olivier tout à l'heure, et puis on ne peut plus rien y répondre. Puisque si la violence, si on résume l'adolescent à son comportement, on ne peut plus rien y faire. Donc là, pour moi, j'ai eu envie de décrire qu'est-ce que le comportement veut dire, comment est-ce qu'on peut le comprendre, comment est-ce qu'on peut réaliser ce qui se joue dans la tête d'un adolescent. Et puis une fois qu'on a pris conscience de ce qui se passe, donc là c'est vraiment la conscientisation de la situation, et bien, il y a quelques pistes qui sont des pistes que moi j'utilise en coaching, qui sont souvent des pistes, le plus récurrent je crois c'est la notion de la communication, c'est comment on rentre en lien dans chacune des situations, comment est-ce qu'on explique, comment est-ce qu'on fait face, comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on accepte. Donc voilà, ce sont des pistes qui sont je crois concrètes parce qu'elles sont dans la vision coaching, parce que c'est ce qui me tient à cœur. Moi, j'ai envie que les gens qui lisent ce livre puissent repartir en disant, tiens, je vais essayer ça, et puis si ça marche, je continue. En fait, c'était ça mon envie, c'était d'offrir des alternatives. Et en coaching, on dit une chose, c'est que si on continue un peu plus de la même chose, donne un peu plus du même résultat. Donc si les parents continuent à confronter leurs enfants de la même manière, mais ils vont obtenir le même résultat. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose un peu différent de voir ce qui se passe.
Il n'y a aucun risque à le faire.
Il n'y a aucun risque.
Quand on est master, PNL, coach...
À Genève, master. Dans le canton de Vaud, c'est maître praticien.
Maître praticien, master, protection. En PNL ou coach, quand on a fait des études de psychologie, quand Olivier, on travaille avec des adolescents, est-ce que ça veut dire qu'on est garanti de ce côté-là, qu'on saura exactement répondre à ses propres adolescents? Qu'on saura,
Olivier
on saura
un
faire.
Adolescent à la maison. Donc
alors, ça veut dire qu'on sait faire forcément.
Il est 20h53, il a pour instruction de se coucher après l'émission. je verrai ça tout à l'heure en rentrant. On va vérifier. Oui. De toute façon, là, il nous écoute.
C'est tôt.
Bouge pas,
comment
papa,
s'appelle
il s'appelle Élie.
Élie, tu devrais réagir parce que 21h, à mon avis, à 13 ans et demi, c'est beaucoup trop tôt.
Non, alors
moi, je voudrais quand même dire qu'Olivier a fait un travail extraordinaire. Il a un fils fabuleux.
Ouais. C'est la tata qui parle. C'est tata qui vient de parler. Tata est amoureuse.
Non, en fait, est-ce que c'est la garantie? Je ne sais pas. En tout cas, il est clair que les outils sont utilisés au quotidien. Je peux simplement vous dire qu'à 13 ans, quand il me voit arriver avec mes gros sabots de coach, il me dit ouais, ça y est, c'est le coach qui parle.
C'est l'emmerdeur.
Et quand il se met avec mon épouse et qui me regarde en se marrant quand je commence à dire un truc, je dis ok, c'est bon, je vais lâcher prise. On va passer à autre chose.
Je ne sais pas si ça nous met à l'abri, je ne crois pas que ça nous mette à l'abri, mais il y a cette dimension émotionnelle hein, que l'on vit dans cette relation de parent à enfant. Il y a une relation, enfin, il y a vraiment une dimension émotionnelle qui touche au-delà de ce que l'on peut apprendre et des techniques que l'on peut apprendre. Je pense que c'est ce qui fait que ben, les grands plus grands psys ou les plus grands,
les plus grands
de, problèmes. De l'histoire ont eu des difficultés avec leurs enfants parce que ça met pas à l'abri. Toute la relation affective et émotionnelle fait que, après les théories, c'est une bonne chose, mais il faut arriver à dépasser ça.
Vous l'avez dit, pardon Olivier.
J'allais dire, ça offre des ressources. Après, c'est évident que moi, j'espère, j'aimerais pouvoir me vanter de dire que, ça, que les choses se passent dans une plus grande conscientisation et que du coup, à la maison, ça se passe assez bien. Il vit une semaine sur deux avec moi, une semaine sur deux avec sa mère. On a préservé un lien exceptionnel avec sa maman. Voilà, après est-ce que c'est parfait? Non.
Mais ça aide beaucoup. Rien n'est parfait.
Non, mais ça aide beaucoup.
Ce serait parfait, ce serait terrifiant.
Ça se passe avec beaucoup de complicité.
À quel moment tout cela s'arrête? Vous l'avez dit, à un moment on sort de l'adolescence, mais on en sort pourquoi et on en sort comment? Et est-ce que un événement est un présage parfois à cette sortie de l'adolescence, à cette vie de jeune adulte?
Je ne crois pas qu'il y ait un événement.
Est-ce qu'il y a un prélude quelconque à tout ça ?
Je crois que c'est vraiment quelque chose qui se vit progressivement. C'est-à-dire, progressivement, l'ado met des pierres, des jalons.
Et on en sort aussi lentement qu'on y est rentré, finalement ?
Je pense qu'on y rentre plus vite qu'on en sort.
Oui ?
Oui. Je pense que...
C'est le mot de la fin. C'est le pire mot de la fin.
Cette image, c'est une de mes enseignantes à l'université qui m'avait donné cette image de la crise d'adolescence. Enfin, de la crise tout court. Elle disait, mais pour qu'un bloc de glace change de forme, sans perdre un bout de lui-même, il a besoin de passer par la phase de liquéfaction. Et au fond, la crise, c'est ça. C'est ce moment de liquéfaction. Donc, c'est
encore cette histoire de chrysalide, de cocon, où tout se refond et,
oui. et se transforme.
Se transforme pour tout donner... se fond se transforme pour, oui. pour donner la, le...
Donc, au fond, le passage du liquide au solide va se faire progressivement au cours du temps. Et puis, les relations, la rencontre, le couple, le choix professionnel, l'installation dans une maison à soi, enfin tout ça, ça va contribuer progressivement à prendre plus de responsabilités et aussi plus de liberté. Donc au fond, c'est ça qui va marquer l'âge adulte.
J'ai deux événements, moi, qui ont marqué la fin de mon adolescence.
Oui, Olivier Roux.
Quand j'ai raté mon bac, à 19 ans, j'ai compris en le ratant que j'avais fait une bêtise et que c'était imputable à moi et je me suis senti responsable. Et c'était une bonne chose. Il m'a fallu du temps après pour l'avoir, mais enfin, je l'ai fini par l'avoir. Et puis la deuxième chose, c'est l'arrivée de mon fils. Et là, j'avais 26 ans.
Ah, la paternité, alors.
Oui, j'ai eu le sentiment de passer une étape et ça a clos définitivement l'adolescence.
Mmh. On les fait de plus en plus tard, les enfants, alors donc... Ça veut dire que ce rite de passage-là, en tout cas,
tout à fait.
Sera... Voilà. Merci infiniment, en tout cas. Merci Pascal Roux.
Merci à vous.
Les ados, le mystère expliqué, édition Favre. Et je répète, d'abord,
il est beau,
l'ado,
hein.
Il est magnifique.
Je ne le connais pas.
Mais je ne sais pas, mais je crois l'avoir déjà croisé, mais je ne sais pas où, je ne sais pas comment.
Mais c'est un ado de publicité, ça. Il est parfait, il n'a même pas un bouton.
Il est magnifique. C'est un ado pour la peinture. Et s'il se reconnaît, moi, je veux bien qu'il me contacte.
Il est beau comme tout. J'espère qu'il va bien. J'espère que c'est un adolescent calme et tranquille. Non, j'espère qu'il a plein de soucis, comme ça, il viendra nous voir.
Sinon, tu lui dédicaces le bouquin.
Moi, je veux bien.
Mais parce que vous ne savez pas qui c'est. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi.
Non, je connais pas ce jeune homme, mais il est absolument charmant.
Bon, eh ben il est très joli. Les ados, le mystère expliqué, donc édition Favre. Merci Olivier Roux.
Merci Michel.
Bonne continuation avec vos ados, à vous.
Long week-end d'abord.
Oui, long week-end d'abord. Ah oui, c'est vrai, lundi, on ne se retrouvera pas. C'est la fin de cette émission précisément, préparée avec les collaborations de Stéphanie Gocci pour la production, de Stéphanie Jovanovic pour les choix musicaux et de Gilles Zaman qui était en régie. Après les informations, nous mettrons nos pas dans ceux de Jack Rose. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera donc effectivement mardi. Et je souhaite à tous un très bon jeûne, si vous avez la chance, évidemment, de prendre un petit peu de repos à ce moment-là. C'est le cas.
Bonne soirée, à bientôt.
Bonne soirée, merci.
Vous écoutez la radio suisse romande, la première, il est 21h.